Soyez bienvenue, toute l'équipe d'International est heureuse de vous retrouver sur les réseaux de Radio France Internationale, de TV5 Monde, émission que nous réalisons en partenariat avec le quotidien Le Monde. L'avantage avec l'invité que nous accueillons aujourd'hui, c'est que sa fonction vous est forcément connue. Anne Hidalgo, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Maire de Paris, principale destination touristique au monde, 30 millions de visiteurs chaque année, une ville au rayonnement culturel, architectural, historique, évidemment très important. Nous allons vous interroger sur cette fonction, aussi sur le regard que vous portez sur la vie politique en général, à la veille d'élections qui vont avoir lieu en France, confronté que vous avez été également au terrorisme, nous y reviendrons. Avant cela, si l'on connaît la ville, peut-être vous connaît-on un peu moins bien. Alors voici le portrait d'Anne Hidalgo en moins de 2 minutes.
Il y a un an, Paris change de visage. La première femme maire de la capitale est de gauche. Elle a 3 enfants, un parcours discret, plein de mérite. Fille d'immigrés espagnols qui fuit la dictature de Franco en 1961, elle vit à Lyon et est naturalisée française à 14 ans. Après des études de droit, elle est affectée à Paris en tant qu'inspectrice du travail. Cette féministe et syndicaliste prend sa carte au Parti Socialiste en 1994. 3 ans après, elle entre dans plusieurs cabinets ministériels. Sa rencontre avec Bertrand Delanoë va tout changer. Élu maire en 2001, il la nomme première adjointe. Il vient de trouver son successeur.
Elle a eu une circonstance dans laquelle elle s'est révélée, moins de 2 ans après mon élection, lorsque j'ai été indisponible pendant 5 semaines et demie, ou même fatigué, j'ai orienté les choses, mais où elle a tenu le gouvernail. Et elle l'a fait avec beaucoup de courage, de modestie, et elle a été efficace.
Autre circonstance tragique, les attentats de janvier. Elle est devant pour dénoncer le terrorisme, aux côtés des grands dirigeants. Son écharpe parisienne lui offre une stature internationale, un rôle qu'elle joue à fond à la tête d'une ville monde. Par exemple, avec ses pairs des 5 continents, elle s'engage pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Et à l'horizon de la conférence climat cette année à Paris, elle va multiplier les initiatives et rendez-vous autour d'élus locaux internationaux. Son credo, c'est l'économie circulaire, qui traite aussi bien des déchets, du gaspillage que des énergies. Elle accélère même la cadence pour chasser les véhicules les plus polluants de la cité dès cette année. Pour changer le monde, Anne Hidalgo parie sur la gouvernance locale.
Moi, je ne crois pas aux solutions venues d'en haut. Pour faire bouger les choses, il faut s'appuyer sur cette énergie des villes, des régions et des entreprises, parce que les États n'ont pas été toujours au rendez-vous.
Dans une France marquée par la montée de l'extrême droite et un taux de chômage élevé, la capitale est un îlot privilégié de création, d'innovation et de richesse, où Anne Hidalgo veut maintenir la barre à gauche. Pour marquer son territoire, elle affiche aussi sa différence. C'est le cas sur la question du travail du dimanche et surtout sur l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. Le président François Hollande est pour la candidature de Paris. Elle s'est montrée d'abord ouvertement réticente. Mais pas question d'un bras de fer avec le chef de l'État.
En ce qui concerne notamment la candidature de Paris aux Jeux Olympiques.
Voilà, nous aurons beaucoup de questions, mais dans tous les portraits que l'on vous consacre, première femme maire de Paris, peut-être aurait-on dû vous inviter la semaine dernière, journée de la femme. Plus sérieusement, c'est encore important ou c'est anecdotique? Le fait que vous soyez femme à la tête de cette ville.
C'est pas anecdotique parce que d'abord ça reste très difficile pour les femmes de faire un parcours dans la vie politique et d'arriver à des endroits de grande visibilité par l'élection. Aujourd'hui, il y a bien sûr parité au niveau du gouvernement, il y a des avancées qui ont été faites d'ailleurs depuis la loi de 2000 sur la parité, mais ça reste encore très difficile, c'est un univers dont les codes fonctionnent encore au masculin. D'ailleurs, c'est un univers politico-médiatique qui fonctionne de cette façon-là. Lorsqu'une femme est engagée dans la vie politique, elle doit prouver plus qu'un homme sa compétence et son autorité. Par définition, ce ne sont pas des choses qu'on leur attribue de façon naturelle, alors qu'un homme n'a jamais approuvé ni sa compétence ni son autorité. Donc ça reste très difficile et moi je veux en faire le fait que je sois la première femme maire de Paris, je veux en faire quelque chose qui aide justement les autres femmes à ne pas avoir peur, à avoir confiance en elles et à se dire que nous avons à apporter une démocratie qui fonctionne bien, c'est une démocratie qui fait la part qui revient aussi aux femmes.
Alors, interview que nous allons conduire avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale, Christophe Hayat du Monde. Peut-être un mot également sur le portrait. On parle de ville-monde, on parle de ville inclusive. C'est du jargon un peu bobo ou vraiment qu'est-ce que vous mettez derrière ces expressions ?
Non, d'abord c'est une réalité. Hein. On est aujourd'hui dans un monde où les villes, les grandes villes-monde, les capitales ont pris une place très importante. Elles dialoguent entre elles, elles s'affranchissent un peu d'ailleurs de la diplomatie des États et nous travaillons beaucoup avec les maires de toutes les grandes villes, que ce soit dans l'espace francophone ou au-delà. Nous piquons les bonnes idées, nous nous influençons. Donc c'est quelque chose de nouveau parce que les villes sont les lieux où aujourd'hui convergent les populations à l'échelle de la planète et c'est là que l'on trouve à la fois les espaces de création, de créativité, mais aussi tous les défis à relever, les défis planétaires, ils ont tous leur impact dans les villes, que ce soit le défi climatique ou démocratique.
Sophie Malibaud, Christophe Hayat. Sophie Malibaud.
Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'une ville comme Paris a absolument besoin de grands projets en ligne de mire tels que l'accueil des Jeux Olympiques en 2024, voire même l'exposition universelle en 2025.
Un an plus tard, oui.
Oui, je pense que les grandes villes monde sont appelées aussi à intervenir et à donner leur vision sur, notamment à partir de grands sujets, de grands événements internationaux. Que ce soit l'Expo ou les Jeux, la question n'est pas tant de savoir si on est capable d'organiser ces événements.
Pour être clair, vous êtes pour vous-même, vous êtes pour
le besoin.
La question, c'est pourquoi faire. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai été non pas réticente, mais j'ai posé des conditions, notamment sur les Jeux, parce que je voyais que tout le monde partait quand même très allègrement vers une candidature sans se poser les bonnes questions. Les questions, c'est pourquoi on a perdu les fois précédentes, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour
face
que l'on gagne, face à Londres notamment, et les bonnes questions aussi, c'est le pourquoi. Pourquoi vouloir les Jeux ? Cette question, les sportifs l'ont prise à bras-le-corps, ils ont travaillé, ils ont fait un excellent travail justement d'identification de nos points forts et de nos faiblesses. Et sur la question du pourquoi, moi je pense que la force de Paris, c'est de se lier aussi avec des territoires qui ont besoin d'une transformation, des territoires stratégiques. Je l'ai dit, je pense à la Seine-Saint-Denis, bien sûr. C'est un territoire très jeune.
Département au nord de Paris.
Hein, au nord de Paris, c'est un département qui est très jeune, qui est très cosmopolite, qui a besoin qu'on lui donne aussi des signaux, qui a besoin de s'inscrire pleinement dans une entreprise, dans une aventure collective. Et moi j'ai envie qu'une candidature de Paris puisse servir aussi à donner de l'espoir et à transformer avec les élus de la Seine-Saint-Denis, bien sûr, ce territoire.
Alors, est-ce que maintenant vous êtes convaincu et quelle est la prochaine étape ?
Alors, sur les Jeux, oui, je ne rentre pas de façon neutre hein, dans le sujet, puisque à l'issue du travail fait par les sportifs, ils m'ont remis ce travail-là. J'ai encore posé quelques conditions hein, au président de la République en lui disant il faut quand même qu'il y ait une gouvernance qui soit solide, hein, parce que il y a des échéances politiques majeures avant que le CIO ne se prononce. Il ne faut pas qu'une candidature française se fracasse sur des enjeux politiciens. Donc, en termes de gouvernance, il faut que les sportifs soient devant, que la ville qui est celle qui signe et qui engage la candidature soit bien sûr pilote, rassemble, coordonne l'ensemble des élus locaux impliqués. Et puis il faut aussi en termes de financement, puisqu'il s'agit de faire des Jeux qui aient un impact et environnemental et dans la sobriété sur le plan de la dépense publique, qu'il y ait un fonds, en tous les cas c'est ce que j'ai demandé, logé pourquoi pas à la Caisse des dépôts, qui permette d'amorcer aussi les dépenses et qui accueillent des fonds publics et privés, mais qu'il y ait déjà un fonds d'amorçage de la candidature, parce que cette candidature, elle doit être utile tout de suite. Elle ne doit pas produire ses effets en 2024, elle doit produire des effets tout de suite. Ça doit être un engagement citoyen, un engagement fort. Donc, prochaine étape, conseil d'arrondissement de fin mars, les 20 conseils d'arrondissement de Paris vont se prononcer et le conseil de Paris se prononcera le 12 avril, mais je donnerais moi-même hein, une inclinaison bien sûr positive.
Et vous êtes favorable donc à cette démarche ?
Oui, très bien.
Mais vous parliez budget, alors le budget dont on parle maintenant, c'est 6,2 milliards d'euros, c'est-à-dire des jeux économes, raisonnables, machin. tous les jeux qui ont eu lieu ces dernières années, enfin ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années, ont doublé, voire triplé leur budget. Ouais. Je ne parle même pas de Pékin, où on est passé de, on a été à 18 milliards, mais Londres, Athènes n'ont jamais été en dessous de 11 milliards. Comment Paris va faire pour faire avec 6 milliards là où tout le monde a fait avec 12?
Et c'est pas un projet low cost dans ce cas-là?
Alors d'abord 6 milliards c'est pas encore le chiffre mais c'est même entre 4 et 6 milliards hein, donc mais en fait vous avez raison, c'est pour ça que j'ai été aussi un peu réticente. J'ai dit on peut pas à un moment où on baisse les dotations publiques des collectivités. Moi j'ai un programme, je me suis engagée auprès des Parisiens sur des réalisations. Il est hors de question de dire bah maintenant on met tous nos moyens sur les jeux. Non, je vais faire les logements, je vais faire les transformations que j'ai promis aux Parisiens lorsqu'ils ont voté pour moi. Mais il faut bien sûr que la question du financement soit posée. Le CIO a apporté des éléments de réponse qui ne sont pas négligeables, hein, qui sont d'abord des jeux avec une empreinte écologique moindre. Ça veut dire construire des équipements s'il y en a besoin, mais utiliser beaucoup de sites existants. Il y a beaucoup de sites dans Paris qui existent déjà. Celui qui nous reste encore à faire, c'est Roland-Garros, hein, qui fait partie des sites olympique, mais la plupart des sites parisiens existent déjà. Ce qu'il faudra construire, c'est une piscine olympique. Elle est plutôt prévue en Seine-Saint-Denis et le village olympique. Donc, dans le modèle économique, et moi j'avais beaucoup insisté là-dessus, le modèle économique qui est proposé n'est pas un modèle économique qui doit s'appuyer simplement sur de la dépense publique. D'abord, moi je n'en aurais pas les moyens, d'où ma demande aussi d'avoir un fonds d'amorçage qui puisse permettre de soutenir cette candidature et de commencer les premières réalisations. Donc le CIO a apporté des éléments quand même sur la transparence et le CIO apportera aussi environ 2 milliards à pour les équipements de la ville qui aura été retenue comme candidate. Ce qui est nouveau, hein, ça n'existait pas dans les jeux précédents.
Sophie Malibon.
Quelle est maintenant votre position par rapport à l'exposition universelle, puisque vous y êtes montré favorable?
Oui.
C'est presque le même calendrier.
Quasiment le même calendrier. L'expo universelle, c'est aussi un très très bel événement, très fédérateur. Et en fait, c'est un événement qui va se retrouver à peu près dans le même calendrier que celui des Jeux. Moi, je
dans
pense
10 ans.
Que et j'ai dit que j'étais favorable à ce que l'on fasse prospérer cette candidature de l'expo universelle.
Alors maintenant, on a il faut faire le candidature.
Alors, il faut faire très attention à plusieurs choses. D'abord, quand on répond à au CIO ou au BIE, qui est l'équivalent pour les expos universelles, il faut quand même répondre aussi à leur cahier des charges. Une expo universelle qui ne coûterait pas d'argent public, ça n'existe pas. Hein, donc,
c'est ce qui est proposé.
C'est pourtant l'engagement.
Oui, ça n'existe pas. Ouais. Donc, il faut refaire les choses et remettre les choses dans un contexte de réalité, pas simplement dans nos rêves. Une expo universelle multisite, c'est quelque chose qui n'est pas très opérant du point de vue de l'efficacité de la candidature, parce que ça ne correspond pas au cahier des charges du BIE. Une expo universelle qui se ferait sans construction nouvelle, ça ne correspond pas non plus.
Le métro, la Tour Eiffel sont nés des précédentes expositions.
Donc il faut, et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait, qu'il y ait une gouvernance extrêmement efficace. L'expo universelle, c'est l'État. Hein. D'ailleurs, c'est l'État qui engage, c'est pas la ville. Donc ça peut pas être porté par une ville ou par un groupe de villes. C'est l'État qui doit dire si on y va ou pas. Après, la question, au bout d'un moment, c'est pas le moment de se la poser, est-ce que deux candidatures sont quelque chose qui peut aider chacune des candidatures,
ou se renforce ou s'annule?
Est-ce que ça annule les deux candidatures? Donc il faudra qu'on se pose les bonnes questions, mais pour l'instant, je pense qu'il faut avancer, travailler sur ces deux événements.
Vous-même, pour l'instant, vous êtes favorable à ces deux candidatures?
Je suis favorable à ces deux candidatures, en tous les cas, à ce qu'on puisse continuer à les examiner. Celle, mais c'est normal, puisque l'échéancier est plus court pour les Jeux, elle est déjà bien engagée, parce qu'il y a eu ce travail et cette prise en main par les athlètes et le mouvement olympique français. Celle-ci est déjà bien partie. Pour l'expo, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Vous savez, dans ce genre d'événement, la France ne peut pas être dans l'arrogance. Hein. C'est pas on nous attend, on arrive. C'est pas ça. Il y a des tas de villes qui sont capables de faire des choses
comme ça qu'on est allé à la candidature à Londres ?
Non, je dirais pas ça, mais non, pas du tout. On était dans un autre moment, y compris du point de vue du CIO, et on s'est fait doubler dans la dernière ligne droite par Londres. Puis il y a eu des choses, j'y reviens pas. Mais je pense qu'il faut toujours se poser la question du pourquoi. Quel est le message qu'on veut envoyer au monde ? Ce sont des événements internationaux. C'est quoi le récit de la France au XXIe siècle qui candidate à travers sa ville capitale pour des événements de cette nature-là. Et donc, moi, le récit, il doit être profondément humaniste. Il doit être profondément ancré dans une volonté de montrer aussi la force de cette France qui a su s'enrichir de toutes les influences du monde entier, qui donne une chance à sa jeunesse.
Très concrètement, vous l'avez vécu, l'échec de 2005, oui. Quand les Jeux ont été attribués à Londres et non à Paris. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon ?
D'abord, cet échec a été extrêmement douloureux parce que c'est vrai qu'on avait sans aucun doute le meilleur dossier. Et puis, bon, il y a eu à la fois des sujets d'ordre diplomatique, des expressions à l'époque un peu malheureuses vis-à-vis de la cuisine finlandaise. Bref, des choses qui...
Des erreurs qu'on ne refera pas, j'imagine.
Des erreurs qu'il ne faudra pas refaire. Après, il y a eu une implication très forte de beaucoup. Le maire de Paris a été très, très impliqué et heureusement, parce qu'une il manquait 3 voix pour obtenir les Jeux. Donc il y a eu un travail considérable et en même temps je pense que il nous faut c'est le CIO, c'est les Jeux Olympiques, il faut mettre les sportifs devant. Donc ça, en termes de gouvernance, je crois que c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on s'accorde tous.
Christophe Ayat, tout le monde.
Paris s'engage dans des... Enfin, du moins candidate à des projets extrêmement ambitieux, les JO, l'Expo Universelle, et puis on a l'impression qu'en même temps, c'est extrêmement difficile de faire bouger les choses. Je prends l'exemple de la Tour Triangle. C'était un projet majeur.
Un grand projet de construction de tours dans Paris.
Votre prédécesseur lui-même disait il faut construire des tours à Paris. Ouais. On est en 2014, 2 mandats et le vôtre a commencé. Et puis il y a toujours pas de tour qui a été construite. Et pourtant c'était un projet porté par Bertrand Delanoë que vous portez aussi.
Donc on peut rien faire.
Donc est-ce qu'on peut rien faire à Paris ?
Alors c'est très dur, hein, c'est vrai, vous avez raison. C'est vraiment une énergie considérable. Moi je mets beaucoup d'énergie, toute mon équipe aussi pour convaincre, pour faire en sorte que on soit pas prisonnier de petits débats politiciens.
On peut avoir des choses nouvelles.
Je vais vous dire parce qu'il y a des choses qui vont bouger, mais c'est vrai que il y a une tendance. Une tentation, on l'a vu sur la Tour Triangle, où la droite était pour dans le précédent mandat, et tout d'un coup, parce qu'il fallait mettre de la politique politicienne et que la droite voulait sa victoire, voilà, alors il fallait faire échec à quelque chose, et autant faire échec à quelque chose de grand, c'est d'une stupidité incroyable. Incroyable.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes de votre propre majorité,
les écologistes.
Alors, comme par exemple pour les Jeux Olympiques.
Non, vous savez,
il y a. De Paris, il y a des communistes, des écologistes qui sont contre la tour des JO.
Non, les communistes sont pour les Jeux et pour la tour. Mais les écologistes ont toujours été contre. Donc c'est pas un problème dans ma majorité, c'est une position connue. Ce qui a été un problème, c'est que la droite était pour, elle est devenue contre.
Donc
pour
il
des
peut
raisons
y avoir dans les années qui viennent des tours, des gestes architecturaux nouveaux.
Alors, il y a des gestes architecturaux qui sont déjà lancés. D'ailleurs, le tribunal de grande instance de Paris, qui se situe donc quand on vient de Roissy pour les visiteurs, on voit énormément de grues en ce moment. C'est un bâtiment qui va être construit avec l'architecte Renzo Piano, architecte italien, et qui va mesurer 160 mètres. Donc, ce sera la première tour. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que la droite parisienne est pour le TGI, contre la tour Triangle. L'argument de la tour Triangle, c'était de dire une tour toute seule, ça n'a pas de sens. Je leur rappelle, au cas où ils n'auraient pas vu, mais ils le verront bientôt puisque ça va sortir de terre, que la tour du TGI sera aussi un objet isolé.
Bien,
bon, peut-être que ça les ramènera à, non pas de la politique politicienne, mais à quelque chose de fond, parce que tout ça amène aussi de l'énergie économique. Et puis, il y a un autre projet qui est en cours, qui va aussi sortir de terre. 2 tours construites par Jean Nouvel dans le 13e arrondissement de Paris. Donc, ça bouge beaucoup.
Le ciel de Paris va bouger.
Mais avec beaucoup d'énergie de notre part et de la conviction. L'histoire de Paris ne peut pas nous emprisonner,
alors,
nous obliger
on
à
vous
faire
retrouve
toujours mieux, mais à ne pas rester dans un mythe d'un Paris perdu.
Anne Hidalgo, nous vous retrouvons dans une minute, juste après ce point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde.
31 mars pour conclure un éventuel accord. À Paris, le magasin Hyper Cacher, cette épicerie de l'est de la capitale française, a rouvert ce matin. Ce commerce avait été visé il y a 2 mois, le 9 janvier, par une prise d'otage lors de laquelle l'assaillant Hamedi Coulibaly avait assassiné 4 clients juifs avant d'être abattu par les forces de l'ordre. En France, journée de mobilisation contre le projet de loi santé de Marisol Touraine, départ d'un cortège à Paris à 14h. Les manifestants vont rejoindre le ministère de la Santé dans le cadre d'un défilé unitaire. Les sports rugby cet après-midi à Rome, dernière rencontre de la 4e journée du tournoi des 6 nations à 15h. Temps universel, Italie-France. Et puis du foot, 29e journée, 3 matchs au programme. Lille-Rennes, Bordeaux-PSG ce soir, 21h, heure de Paris. Marseille qui affronte l'actuel numéro 1, l'Olympique Lyonnais.
Retour international, nous recevons aujourd'hui Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. Nous parlions, Anne Hidalgo, avant cette pause, des grands projets, que ce soit les Jeux Olympiques ou l'Exposition Universelle. Dans le monde entier, on nous regarde ou on nous écoute. Paris, rayonnement mondial, je le disais, première destination touristique. Est-ce que Paris, comme on l'a dit parfois, est une ville riche ou maintenant de plus en plus une ville de riches?
Non, c'est une ville qui a de la puissance, c'est une ville bien sûr historique, patrimoniale, culturelle, mais aussi un lieu de l'économie, hein, de la création économique. On est capitale des start-up, on est devant Londres en matière de création de start-up. Il y a une énergie économique aussi et de la richesse qui se crée à Paris d'ailleurs, qui est redistribuée dans toute la France. Hein, parce que je rappelle, sur le budget de la ville de Paris, 500 millions d'euros chaque année sont prélevés pour servir à la solidarité nationale et régionale.
Non, mais derrière la question, il y a bien sûr la difficulté pour les classes moyennes de se loger.
Voilà, la population est une population très mixte, très diverse à Paris. Vous savez, 70% des Parisiens sont éligibles aux critères du logement social. Donc ça veut bien dire que les personnes qui sont à Paris, en grande majorité, sont des classes moyennes, des petites classes moyennes, qui s'accrochent, c'est vrai, parce que le coût du logement est exorbitant, le coût de la vie est très très élevée et donc dans la politique que je conduis il y a comme priorité le logement et notamment je veux que ces classes moyennes, que ces gens qui travaillent d'ailleurs pour la ville, hein, pas en tant que fonctionnaires simplement, mais qui font fonctionner cette ville, puissent se loger au plus près du centre urbain. Et donc mon projet de 10 000 logements par an, dont environ 7 000 sociaux, la transformation du bureau-vie dans logement, le fait que on crée au Conseil de Paris cette semaine un outil nouveau, le multiloc, qui va permettre aux propriétaires d'appartements qui n'ont pas mis en location aujourd'hui leurs appartements de pouvoir faire lutter contre la vacance et pour notamment les classes moyennes. Bref, une mobilisation publique et privée sur le logement pour permettre justement à ces classes moyennes de se loger. C'est le sujet numéro un à Paris.
Vous pensez qu'il faut taxer les gens qui ont un logement vacant, qui n'utilisent pas, ou alors ceux qui l'utilisent uniquement à la location ultra-saisonnière, notamment Airbnb, par exemple, enfin ce phénomène.
Alors, on essaye de prendre les choses avec intelligence. La taxation, oui, pour les logements vacants, on y est favorable, mais en même temps, la mobilisation de ce parc, on ne va pas laisser... les estimations sont quand même de l'ordre de plus de 100 000 logements vacants à Paris. On a besoin de ces logements. Donc, moi, j'essaye plutôt de leur dire, et avec le réseau des agences immobilières privées que je vais intéresser à aller chercher ces logements, les remettre sur le marché, mais à des prix abordables pour les Parisiens. Sur les autres sujets, les locations saisonnières, là aussi, on a travaillé intelligemment. On ne va pas empêcher la personne qui, 2 semaines ou 3 semaines par an, va louer son appartement parce que elle part elle-même en vacances ailleurs. Ça, ce sont des choses qui sont qu'il faut accepter et intégrer.
En revanche, c'est une institutionnalisation l'élection, là, vous...
Là, on met le haut là, et en tous les cas, on crée des conditions. D'abord, parce que c'est une concurrence à l'hôtellerie qui n'est pas... il y a de l'évasion fiscale, c'est pas normal non plus. Donc, on crée là les conditions pour que ce soit régulé. D'ailleurs, on l'a vu, hein, le patron de cette grande entreprise est venu à Paris il y a 2 semaines. Il est d'accord avec cette démarche. Hein. Il faut une démarche qui soit aussi éthique et responsable pour que Paris ne se retrouve pas comme certaines grandes villes qui sont des villes musées où finalement la location saisonnière empêche les gens qui travaillent de s'y installer.
Autre dossier qui a valu une tension peut-être avec le gouvernement, je rappelais donc première destination touristique Paris, c'est l'ouverture des magasins le dimanche. On n'a pas compris, est-ce que c'est du rôle de l'État ? C'est votre rôle de dire quels magasins peuvent et doivent être ouverts le dimanche ?
Moi, j'estime que c'est le rôle des villes. D'abord, il faut que l'État...
Donc, c'est pas l'affaire du gouvernement.
Il faut que l'État... Le rôle du gouvernement et du Parlement, c'est de faire la loi. Ils font la loi et la loi sera appliquée. Mais ce n'est pas à eux de dire quelles sont... Enfin, c'est ma conviction. Il faut arrêter. Le gouvernement ne peut pas se mêler de tout. Il faut qu'il ait confiance. Ça, c'est un message que j'ai adressé. Malheureusement, je n'ai pas été entendue. Qu'il ait confiance dans les collectivités. Les villes-mondes, on est là en train de se battre pour l'attractivité de nos villes. Vous croyez vraiment que c'est l'action des gouvernements passés qui fait que Paris est aujourd'hui une ville très attractive ? Je pense que c'est l'action du maire de Paris précédent et mon action avec surtout un tissu d'entreprises, un tissu d'acteurs locaux très très motivés et mobilisés pour leur ville.
Sur le travail du dimanche, est-ce que ça n'est pas le caractère figé de la question jusqu'à présent, le fait que ça ne bouge pas sur le travail le dimanche, que finalement c'est le ministère du Tourisme qui décide de la création de ces zones internationales.
Ce qui me paraissait bien, et d'ailleurs je l'ai toujours dit, le rapport Bailly qui précédait cette loi sur le travail du dimanche, apportait des éléments très intéressants. Le rapport Bailly disait notamment, et je me suis appuyée là-dessus, qu'il faut des critères objectifs. Par exemple, ces fameuses zones touristiques internationales, puisque c'est de ça dont il s'agit. Le rapport Bailly disait, donnons des critères objectifs, par exemple des secteurs de la ville où il y a des magasins de luxe ou des grands magasins qui font essentiellement leur chiffre d'affaires sur une clientèle internationale ou la part de détaxe dans ces magasins-là, ça peut nourrir des critères objectifs pour une zone touristique internationale. Moi j'avais dit, fixons ces critères objectifs dans la loi. En tant que maire construite où le Forum des Halles sera ouvert, la rue de Rivoli prend une autre dimension. Et on fera quoi ? On va repasser par un décret pour dire si oui ou non c'est une zone touristique internationale ?
Est-ce que c'est pas devenu une question purement symbolique, d'ordre purement symbolique, cette question du travail le dimanche qui empêche en fait toute évolution ?
Moi, je pense qu'on a tort de poser les questions de cette manière-là. Souvent, j'entends les politiques dire c'est un scalp. Mais c'est quoi ce langage ? C'est ridicule. On est là pour essayer d'être efficace. Il y a un sujet majeur dans la loi et dans le rapport Bailly. Il y a notamment des compensations. C'est très bien qu'il y ait des compensations du volontariat.
On va vers plus d'ouverture le dimanche. On nous écoute dans le monde entier. Les touristes, alors on dit parfois, si c'est pas ouvert à Paris, ils iront à Londres.
Que d'abord, Paris est une ville où il y a déjà beaucoup plus de commerces ouverts à Paris qu'à Londres, ce ne sont pas les mêmes, j'en conviens. Parce que nous, on a un truc que Londres n'a pas, c'est le commerce de proximité. À Londres, le commerce de proximité a disparu justement sous l'influence des grands magasins. Nous, on a préservé ça. Et moi, je n'ai pas accepté dans ce débat, je continue à ne pas l'accepter, la caricature de ma ville. Je n'aime pas et je n'accepte pas qu'on dise que Paris serait une ville morte le dimanche. Allez vous balader dans des quartiers touristiques, le Marais, tout est ouvert au Marais aujourd'hui, qu'il faille, et j'ai toujours dit, s'il faut regarder des extensions de zones ou des créations de zones nouvelles, pourquoi pas, bien sûr, mais il faut être pragmatique et non pas entrer dans une espèce de combat frontal où tout d'un coup le niveau national déciderait. Moi je n'accepte pas ça, je suis maire de ma ville et je
veux décider. On a l'impression que ça vous a énervé que ce soit le gouvernement qui légifère sur cette question.
Qu'il légifère, c'est leur rôle, mais qu'il décide à la place de sur le territoire, je ne suis pas d'accord.
Christophe Ayer.
Alors, par exemple, boulevard Haussmann, les grands magasins, est-ce que pour vous, il vaudrait mieux qu'ils soient ouverts le dimanche pour accueillir des touristes ou pas ?
Aujourd'hui, je pense que ce que nous disent les patrons des grands magasins, c'est qu'ils voudraient ouvrir parce qu'il y aurait un accueil de touristes supplémentaires. Si ça rentre dans les critères, c'est-à-dire de chiffre d'affaires lié à une clientèle internationale, pourquoi pas ? Je ne vais pas m'opposer à l'application de la loi, s'il y a les compensations, etc. Mais aujourd'hui, ça ne se pose pas en ces termes-là. On a caricaturé le débat. Vous savez, quand j'ai entendu certains des ministres expliquer que Paris était morte le dimanche, qu'il ne s'y passait rien, que c'était... Mais c'est du bashing de Paris. Et on va s'amuser à faire du bashing de Paris alors qu'on est tous là en train de montrer les qualités, l'attractivité de cette ville. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on a expliqué que les touristes chinois partaient en groupe dans l'Eurostar pour aller acheter à Londres. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En plus, il y a des problèmes de visa, etc. Donc c'est faux. Donc rentrons dans un débat. Non pas à partir de mensonges caricaturaux, mais à partir de la réalité. Si, dans la réalité, le boulevard Haussmann, les grands magasins correspondent aux critères objectifs de ces zones qui doivent pouvoir être ouvertes le dimanche avec les compensations salariales, etc., eh bien la loi s'appliquera. Mais la loi ne doit pas s'appliquer à partir d'une décision prise et annoncée de façon très caricaturale.
Anne Hidalgo, il y a deux mois, la France et le monde entier voyez avec stupeur, consternation, ces attentats qui ont eu lieu. Vous y étiez très rapidement vous-même sur place. Aujourd'hui, ouvre le magasin dans lequel 5 de nos compatriotes juifs ont été assassinés il y a donc 2 mois. Quand on présente la capitale comme une zone devenue dangereuse à cause de... Vous avez vu Fox News, par exemple, aux États-Unis. Vous avez réagi avec indignation, vous aussi.
Bien sûr. D'abord, ce qui s'est passé à Paris, je crois qu'il y aura un avant et un après, clairement. Après ces attentats, le besoin de sécurité qui est assurée par la police, par les militaires, est quelque chose d'extrêmement important. Mais là aussi, la caricature de ma ville avec ses reportages de Fox News, là aussi du mensonge. On peut émettre des opinions différentes. Que je sois critiquée dans l'action qui est la mienne, c'est normal, c'est la démocratie et heureusement que ça existe. Mais pas sur la base de mensonges. Donc j'ai attaqué Fox News là-dessus devant le tribunal de grande instance de Paris en diffamation et donc j'espère bien sûr que tout cela va prospérer. Mais aujourd'hui à Paris il y a bien sûr cette sécurité, nous sommes vulnérables comme le sont toutes les capitales du monde et les capitales européennes et le besoin de sécurité est là et il faut l'affirmer. D'ailleurs avec des policiers supplémentaires, on aura besoin dans notre pays, on pourra pas je pense passer le cap de ces événements, pas que à Paris d'ailleurs, sans qu'il y ait des augmentations encore de policiers. Le gouvernement précédent de Nicolas Sarkozy a supprimé en France plus de 10 000 policiers. Donc là, il faut reconstituer des effectifs et un peu dans l'urgence, ce que fait très bien d'ailleurs Bernard Cazeneuve et je remercie vraiment le rôle qui est le sien.
Vous dites c'est une caricature, etc. Mais quand le Premier ministre dit il y a en France un apartheid territorial, social, ethnique, on répond pas, c'est une caricature à ce moment-là.
D'abord, il ne parle pas de Paris.
Il parle de territoire.
Oui, mais enfin bon, il connaît suffisamment bien Paris pour ne pas parler de Paris. Et deuxièmement, moi, ce sont pas les mots que j'utiliserais. Bien sûr qu'il y a des
vous
quartiers.
Vous êtes en désaccord avec ces mots-là ?
Non, je suis pas en désaccord, mais ce sont pas mes mots. Ouais. Ils les utilisent, ce sont les siens. Moi, je n'ai pas cette sémantique. Je pense qu'il y a des quartiers dans nos villes. Il y a des quartiers autour aussi de Paris sur lesquels il faut vraiment mettre le paquet, voilà. Les mots, c'est bien, il faut qu'ils soient forts, mais les actes doivent être aussi forts que les mots. Donc, il faut, dans des quartiers que je connais bien, je vais beaucoup avec mes collègues, les élus de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, sur beaucoup de quartiers, on a beaucoup de coopération. Il y a une ville emblématique, Clichy-sous-Bois, qui a perdu son ancien maire, Claude Guillain, il y a quelques semaines. Cette ville emblématique, elle doit avoir notre soutien. soutien. Il faut qu'on les aide à investir, à améliorer les transports pour que qu'il n'y ait pas de sentiment d'enclavement. Donc il faut mettre des politiques très très fortes pour sortir effectivement de ces situations qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas tolérables. Souvent dans ces quartiers-là, les jeunes qui réussissent ou les familles qui réussissent s'en vont, ne restent pas parce que effectivement, et donc il y a un problème de mixité. Donc il faut absolument appuyer très fortement par les politiques publiques notamment, mais avec l'aide des entreprises.
Mais alors c'est ça le grand pari, c'est-à-dire les villes riches payent pour que désenclaver les communes les plus pauvres.
C'est déjà le cas, hein, quand je vous donnais les chiffres tout à l'heure des 500 millions d'euros que Paris verse chaque année en péréquation, et je ne mets pas là-dedans ce que Paris met, par exemple, quand je finance en tant que ville et département les transports d'Île-de-France, je ne finance pas que les transports des Parisiens, je finance tout le réseau. 30% du financement du réseau de l'Île-de-France en transport et en dehors de Paris est financé par Paris. Donc c'est déjà ça. Mais il faut aussi que l'État vienne apporter son concours. Par exemple, moi je pense, hein, dans le débat qui est posé aujourd'hui sur la baisse des dotations de l'État, qui est portée par beaucoup de maires, je pense qu'il faudrait écarter, sortir de cette baisse de dotation les communes les plus en difficulté du point de vue notamment de cette sociologie, de ces difficultés souvent économiques, les sortir de cette règle de non-augmentation de leur dotation. Il faudrait par exemple que les investissements qui concernent les transports, qui concernent aussi la mise aux normes écologiques, sociales, soient exclus du calcul de la dette. Il faut qu'on ait un dispositif spécifique, il faut qu'on soit innovant. Moi, je veux bien apporter ma créativité et celle d'autres villes, élus locaux, pour sortir de ces situations-là. Voilà.
Anne Hidalgo, dans tout juste une semaine, on va voter en France des élections départementales. Paris ne vote pas, puisque Paris est un département d'ailleurs. Le Front National pourrait être la première formation politique de France, hein, au-delà de l'abstention. Paris, j'allais dire, tient le coup par rapport à ce vote d'extrême droite autour de 6, 7, 8%. Pour quelle raison? Il y a moins de classes populaires. Pour quelle raison?
Non, je pense que d'abord Paris reste quand même une ville mixte dans laquelle on s'accroche. On a fait énormément justement dans les quartiers populaires. C'est là qu'on a construit les bibliothèques, les écoles, les collèges, la rénovation urbaine. Ce très beau tramway qui a requalifié aussi des quartiers populaires, on y met beaucoup de moyens. C'était le cas avec mon prédécesseur, c'est le cas aujourd'hui avec la politique que j'engage.
C'est pour ça que le Front National est contenu à Paris.
Il y a ça, il y a aussi, je pense, un niveau d'éducation, aussi une conscience très forte d'une population très impliquée dans sa ville. Il y a des réseaux associatifs qui concernent tous les Parisiens. Donc il y a une énergie quand même démocratique et citoyenne qui sert un peu, qui a servi de barrage.
C'est la bonne méthode en fait pour faire reculer le Front National. Qu'est-ce que vous pensez de la façon des attaques frontales de Manuel Valls,
d'abord,
qui emploie encore, là encore une fois, un vocabulaire très fort?
D'abord, je pense que la bonne démarche, c'est celle qui consiste à donner de l'espoir. Et l'espoir, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des politiques, ce sont des signes de la République, là où les gens sont le plus en désespérance.
Mais pour vous, le Front National est un parti républicain?
Non, pas du tout, je vais y revenir. Mais quand il y a un sentiment d'enclavement, on se sent écarté, rejeté. À Paris, le sentiment d'enclavement n'existe pas. Il y a un métro partout. Enfin, il n'existe pas de la même façon. Même s'il y a des problèmes, hein, et on l'a vu, y compris à la suite des attentats où il y a un travail à faire dans les quartiers en profondeur. Mais le Front National n'est pas un parti républicain. C'est pas parce qu'il est candidat aux élections qu'il est républicain. Ce parti-là n'a rien rompu de ses origines. Ses origines, elles sont...
C'est pas un parti comme les autres, pour vous?
Ah, pour moi, ça n'est pas du tout un parti comme les autres. C'est un parti qui continue à véhiculer des idées racistes, xénophobes. Alors, bien sûr, Madame Marine Le Pen essaye de montrer un visage différent de son père et de nous faire croire à une forme de
modèle.
Il y a un danger majeur avec des gens comme ça.
Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'on s'en tienne aux mots, à la lutte par les mots? Pourquoi il n'y a pas, à ce moment-là, on n'en appelle pas à la justice quand des candidats du Front National emploient des expressions
On le fait. Enfin, je pense que quand il y a des expressions qui sont totalement contraires à nos lois, diffamantes, racistes, antisémites, les uns et les autres vont sont devant les tribunaux. Moi, j'ai dit depuis très longtemps, d'ailleurs j'ai un procès en diffamation qu'intente le Front National, parce que j'ai dit que leur filiation historique n'était pas celle d'un parti républicain. Donc, il faut se battre sur ce terrain-là. J'approuve, là, pour le coup, les propos de Manuel Valls, et je les reprendrai. Bien sûr qu'il faut les combattre sur les idées. Je trouve qu'on a été un peu trop complaisants, tous, là aussi, hein, le petit monde médiatico-politique. Moi, je me souviens, quand je disais, il y a 4 ans, hein, ou 3 ans, que le parti de Marine Le Pen n'était pas un parti républicain, les médias qui me tombaient dessus, en me disant, mais comment ose-t-elle dire ça ? Et des médias tout à fait démocratiques et républicains.
Le fait de dire ça, de dénier au Front National sa couleur républicaine, oui. Est-ce que vous pensez que ça parle à son électorat ?
Écoutez, ça parle en tous les cas. Si on ne le dit pas, personne ne le dira. Et la banalisation du Front National, c'est une catastrophe démocratique. On le voit aujourd'hui, hein ? Aujourd'hui lourdement avec la façon dont un certain nombre de nos concitoyens, en toute bonne foi, se disent ils disent la même chose que les autres et c'est un parti comme les autres. Je pense que cette banalisation est mortifère pour la démocratie. Donc faut en finir avec la banalisation.
Est-ce qu'il n'y a pas un échec terrible quand même du gouvernement, du Parti socialiste, à 2 semaines avant les élections, appeler un sursaut moral là où il y avait le constat qui avait été fait que la morale ne suffisait pas pour combattre le Front National. C'était peut-être un prérequis nécessaire au départ, mais qu'il fallait sur les programmes.
Quand vous voyez élu du Front National se retrouve élu local de l'année, et dans un jury de vos confrères.
Mais quel travail a été fait sur les programmes ? Qu'est-ce qu'on propose aux Français ? Est-ce qu'on leur donne l'impression qu'il y a des solutions à la crise ?
Je suis d'accord avec vous. Le travail sur la morale, le fait de dire ce qu'est ce parti, c'est pas transformer l'histoire. Il y a un très très beau documentaire qui est passé il y a quelque temps quand il y a eu l'anniversaire de la création du Front National, 5 octobre 1972, qui montre très bien la genèse de ce parti et en quoi ce parti n'a toujours pas rompu avec cette genèse et cette histoire qui est une histoire vraiment dramatique pour notre pays. Donc ça, on n'a pas fait le boulot. Je suis désolée. Collectivement, et donc s'il y a un échec, c'est un échec démocratique majeur pour l'ensemble de la classe politico-médiatique.
Mais qu'est-ce qu'on
dira du bon choix ? Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut donner de l'espoir. Et donner de l'espoir en incluant une population, parce que le Front National monte du fait aussi de la montée de l'abstention. Il y a moins de gens qui votent, et donc ceux qui votent sont ceux qui sont attirés et motivés par cette logique-là.
Il faut rendre le vote obligatoire ?
Je suis pas sûre. Là, je pense qu'il faut des solutions concrètes, sociales, des solutions économiques. Quand je vous disais tout à l'heure, le signe d'espoir, par exemple, dont peut être porteur un événement type les JO, il doit s'inscrire là-dedans, dans notre récit. Un récit national qui parle à l'international, qui porte des valeurs humanistes et qui apporte des solutions concrètes sur des territoires qui ont besoin de ces solutions concrètes pour des jeunes qui doivent se sentir inclus dans la République et qui doivent participer. Et on doit leur faire une plus grande place à la vie démocratique de notre pays.
Anne Hidalgo, vous n'êtes pas parlementaire, vous êtes à la tête de ce qu'on appelle une ville-monde, comme si c'était un ailleurs en matière de politique. On parle du Front National. Quel jugement porteriez-vous, par exemple en termes de confiance, sur ce qui se passe actuellement dans l'action du gouvernement qui redescend dans la popularité, qui monte dans la popularité ? Vous vous dites ils vont dans le mur ? Ou vous voteriez une confiance ? Ou est-ce que vous êtes ailleurs ? Pour ne pas avoir à répondre à cette question.
Non, c'est pas ne pas avoir à répondre à cette question. Moi, je suis profondément social-démocrate. Je suis pas une social-libérale. Je suis très libérale sur les questions de société. D'autres le sont moins. Mais je suis très libérale sur les questions de société. Mais je suis une profondément social-démocrate. Je pense qu'il faut marcher sur 2 pieds avec un équilibre. La croissance économique, le développement économique ne peut pas se nourrir de quelque chose chose qui ne soit pas aussi équilibré sur le plan social. Et inversement, on ne peut pas redistribuer des richesses s'il n'y a pas des richesses de créer. Mais je trouve qu'il faut revenir à ce qui est sans doute la base de et l'avenir du Parti socialiste, à savoir cet ancrage social-démocrate, et apporter des solutions qui soient modernes, offensives, équilibrées. Dans les solutions modernes, il y a la décentralisation. Je suis aujourd'hui...
Ça va pas assez loin ?
Ben non, pas du tout. Le constat que je fais, c'est que au contraire, souvent, il y a une tentation du national de reprendre la main. Donc, décentralisatrice, je suis profondément écologiste, profondément féministe. Il faut aller plus loin sur les questions de la place des femmes dans notre société. Je suis moi-même issue de l'immigration. Je pense qu'on n'en fait pas assez. On est aujourd'hui dans un modèle, on nous prône un modèle de réussite unique, il n'y aurait qu'une voie de réussite, et ça, ce sont les élites qui imposent ce modèle-là, alors qu'il y a plein de gens qui ont des talents, qui peuvent, et il faut faire place à ces jeunes. Donc, je voudrais vraiment que l'on revienne peut-être un peu plus à cette origine, à ce fondement qui est celui d'une social-démocratie moderne.
Est-ce que ça doit se dérouler sur la place publique, la fronde, les socialistes frondeurs qui posent un véritable problème au pouvoir actuellement?
Écoutez,
est-ce que ça doit se développer, se dérouler de cette façon?
La démocratie mérite que tous puissent...